Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle heure de vie lausannoise, de la vie d'un point de vue société, d'un point de vue migration et d'un point de vue culturel. C'est le grand direct de Radio Django, trois sujets pour vous au menu ce soir. On va commencer dans Vivre à Lausanne avec la pause syndicale. Fabio, il est question ce soir du monde hospitalier.
Oui, le secteur hospitalier qui est en train de vivre une importante restructuration due notamment à la mise en concurrence des secteurs public et privé, au profit de ce dernier d'ailleurs. Et il en résulte une situation difficile pour les hôpitaux publics avec des retombées néfastes, notamment sur les conditions de travail de centaines de personnes. Et comme on est dans la pause syndicale, nous en parlons de ces personnes et nous avons le plaisir d'avoir à nos micros une infirmière avec laquelle nous déroulerons la situation.
Eh bien oui, puisque nous sommes tous et toutes concernés par ces questions hospitalières. La Rose des Vents, tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, nous parlerons d'un journal, La Voix des Sans-Voix, Daniel, et nous recevons son rédacteur en chef, Charles Souma.
Oui, bonsoir Fabien. Nous irons à la rencontre d'un homme qui est en fait de l'ombre, un homme qui a toujours voulu donner une voix aux sans-voix, qui se soucie en fait des laissés pour compte. Il est avocat de formation et s'est converti au journalisme depuis janvier 2017. Et en définitive, ce qui est important de retenir, c'est que cette personne, en fait, s'intéresse pour diverses raisons à ceux qui n'ont pas le droit à la parole, parce que lui aussi a fait partie des sans-voix.
Voilà, les sans-voix, c'est le menu de la Rose des Vents de ce soir, avec la voix de Radio Django. Et puis, au programme de Cultiver Lausanne à 7h20, théâtre, chanson, écriture, puisque nous recevons Roger Cunéo, qui monte sur les planches du Beatpoche, Jean-Luc.
Oui, alors ce soir, nous allons parler théâtre, un peu particulièrement du spectacle de Roger Cunéo, qui vient d'arriver dans la salle, d'ailleurs.
Oui.
À toi Raymond Devos, qui commence ce soir à 20h30 au théâtre du Vite-Poche, un petit théâtre géré par Pôle Sud. Et ce spectacle se prolongera jusqu'au 7 octobre.
Voilà, on fait le point complet de ce spectacle tout à l'heure dans Cultiver Lausanne. Les hôpitaux dans la pause syndicale, le journal La Voix des Sans-Voix et Roger Cunéo qui se produit au Vite-Poche. C'est le programme de ce grand direct à écouter sur radio.django.fm et en DAB grâce à La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et comme d'habitude, tous les premiers mardis du mois, nous allons nous enquérir de ce qui se passe dans le monde syndical.
La pause syndicale.
En l'an 2000, il y avait en Suisse quelques 400 hôpitaux. Ils seront guère plus de 50 ou de 70 à l'horizon 2030. Le mouvement est en marche partout en Suisse et le secteur hospitalier est en train de vivre la plus formidable restructuration jamais entreprise, Valérie.
En effet, Fabien, la révision de la loi sur le financement des hôpitaux, entrée en vigueur en 2012, visait à abaisser les coûts de la santé grâce à la concurrence. En revanche, cette modification a déclenché dans tous les cantons une réorganisation d'envergure du service hospitalier. Les hôpitaux publics et privés sont mis en concurrence au bénéfice plutôt des cliniques privées. Illustration avec le chef des urgences d'un hôpital public interviewé pour l'émission Temps présent de la RTS du 3 septembre 2015.
Un service d'urgence, c'est par définition onéreux et peu rentable.
Les frais principaux d'un hôpital, c'est le personnel, 70-80%, les charges, je veux dire, et l'infrastructure. Donc clairement, aux urgences, on doit avoir effectivement une dotation qui est assez importante, donc un coût qui est important, une infrastructure, radiologie, bloc et tout ça, qui fait que effectivement ça coûte cher. Ça coûte cher aux hôpitaux publics de devoir maintenir une permanence 24-24-7-7. Donc ça, ça a un coût que les cliniques n'ont pas pour l'instant, puisqu'elles ferment en gros leur structure la nuit, les week-ends ou une partie des week-ends et les jours fériés.
Et l'on retrouve l'inégale répartition des tâches entre le public et le privé, véritable pierre d'achoppement de cette restructuration hospitalière.
Et on le comprend, les hôpitaux publics sont en difficulté par ce nouveau système. On imagine avec des répercussions sur le personnel et les patients, Fabio.
Oui, dotation insuffisante, sous-effectif, épuisement professionnel, sécurité des patients mal assurés. C'est justement de tout cela que dont nous allons parler avec notre invitée, infirmière dans un hôpital public vaudois depuis 7 ans.
Et bonjour Julie. On sait que les répercussions directes de ces choix stratégiques sur les conditions de travail du personnel sont considérables. Concrètement, quels sont les changements intervenus dans ton travail et dans la vie de ton service ?
Alors pour y répondre, j'aimerais bien d'abord vous donner quelques éléments de contexte pour comprendre d'où vient l'épuisement des professionnels. Tout d'abord, je m'en réjouis, mais tant mieux, on vit de plus en plus longtemps et on guérit des pathologies qu'on ne guérissait pas avant. Et ce qu'il y a pour corollaire, c'est qu'on a des patients, des soins qui sont de plus en plus techniques et des patients aussi qui sont de plus en plus dépendants et qui ont besoin aussi d'avoir des soins adaptés à leur pathologie. Donc ça, c'est au niveau de la composition des soins qui nous demande aussi d'avoir plus de disponibilité et plus de temps. Ensuite, on est aussi au carrefour de différentes professions parce que les prises en charge sont interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'il y a autant les médecins, les chirurgiens, les physios, les ergos, enfin différentes professions. Et donc nous, on doit jongler entre toutes ces sollicitations et s'adapter à chaque fois aux impératifs de chacun, donc ce qui demande de se réorganiser au quotidien. Et puis après, donc la pénibilité au niveau humain, c'est-à-dire qu'on traite des patients chez qui... ça peut être des situations dramatiques avec lesquelles on doit digérer ces situations. Je vous donne juste un exemple pour comprendre un peu ce que ça veut dire. Il y a deux semaines, j'ai une collègue qui me disait qu'elle a accompagné un patient en fin de vie avec sa famille, et le patient à peine décédé devait reprendre en charge un autre patient, donc elle devait être dans le curatif, et donc passer d'une situation à l'autre sans avoir le temps de digérer, en fait, c'est détresse humaine, donc c'est parfois très difficile. Donc sur le long terme, ça épuise, d'autant plus avec des horaires qui sont atypiques, deux jours, des nuits qui peuvent s'enchaîner dans la même semaine. Donc tout ça fait que sur le long terme, on s'épuise. Et ça se traduit notamment par un absentéisme qui demande à ce qu'on vienne remplacer sur nos jours de repos. Donc on est rappelé pour aller travailler sur nos jours de repos. Et quand nos collègues ne peuvent pas venir, on travaille en sous-effectif, donc ce qui augmente d'autant plus la charge de travail, ce qui augmente notre épuisement. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait.
Oui, le cercle vicieux, c'est ça. Oui.
Tu venais de parler maintenant d'une collègue qui n'avait pas eu le temps, en fait, de finir une action, en plus avec un patient décédé. Elle devait déjà en recommencer une autre. Il n'y a pas de temps de passage, etc. Est-ce que la relation patient-soignant, elle est affectée, en fait?
Elle est affectée dans la mesure où, effectivement, on n'a pas forcément le temps de faire tous les soins qu'on voudrait faire et dans la vision qu'on a. Après, on essaye quand même de prendre beaucoup sur nous pour assurer un maximum de soins aux patients et aux familles. Donc, on prend beaucoup sur nous justement pour éviter que cette relation ne soit pas affectée. Mais évidemment que...
Le stress fait qu'on a moins de temps pour consacrer à l'explication peut-être, et puis rassurer.
L'explication, rassurer, effectivement. On se concentre sur des gestes parfois plus techniques et au détriment parfois de la communication et du soin relationnel. Oui.
Oui, alors c'est intéressant d'écouter à ce propos l'avis de l'économiste Masha Madorin, qui est auteur d'une étude sur le marché de la santé en Suisse.
La notion de concurrence vient de la théorie de l'économie libre de marché. Mais ça ne fonctionne pas dans le système de santé. Et en fait, cela se traduit par une énorme pression sur les coûts dans les hôpitaux. La concurrence sur les coûts ne peut s'exercer qu'en économisant sur la force de travail, c'est-à-dire l'effectif du personnel. Du coup, le stress des employés va augmenter. Ou bien alors, on engage des gens moins bien formés et qui seront moins bien payés.
Voilà un nouvel extrait de ce temps présent de la RTS.
Alors, l'année dernière, il y a eu une journée de mobilisation qui a rassemblé le personnel soignant autour de revendications qui portaient justement sur la dégradation des conditions de travail. Comment la hiérarchie a-t-elle réagi à ces revendications ? Est-ce qu'elle s'efforce de résoudre les problèmes que tu viens d'évoquer, Julie ?
C'est-à-dire que au niveau de la hiérarchie, les conditions de travail ne sont pas mises en cause. Ce à quoi j'assiste plutôt, c'est évidemment, vu qu'on travaille dans un environnement stressant, il y a plus de conflits au travail. Et puis effectivement, il y a aussi des problèmes de communication. Donc on traite ça comme des problèmes individuels et comme des problèmes de communication sans mettre en cause l'organisation qui mène à ces conflits, en fait. Donc je ne ressens pas pour l'instant un soutien avec une augmentation de dotation ni quoi que ce soit. C'est traité comme des problèmes interpersonnels, individuels. Et ce que je remarque aussi, c'est que une dévalorisation des soignants, disant qu'ils sont peut-être plus capables de faire ce métier, qu'ils sont peut-être plus à la hauteur. Donc, il y a aussi une psychologisation quelque part de ces troubles.
Fabio,
est-ce qu'il y a la règle de diviser pour mieux régner ?
C'est difficile d'en faire une règle. une règle absolue selon les services. Il y a des, selon les équipes, il y a des collectifs qui vont être plus unis que d'autres, mais j'ai du mal à répondre à cette question comme ça.
Mais bon, on l'entend, hein, y a de la souffrance, il y a de l'épuisement, il y a parfois effectivement des mauvaises ambiances qui sont générées par ce stress au travail. Est-ce que le personnel des hôpitaux publics est tenté d'abandonner le métier ou de quitter le service public pour aller se faire engager dans le privé? Enfin, est-ce que dans ton service et dans ton environnement professionnel, c'est des choses que tu as observées?
Oui, bah alors clairement, il y a beaucoup de soignants qui se posent la question de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils voudraient faire, parce qu'il y a vraiment une détresse par rapport à ça. Mais après, la migration vers le privé, je ne le vois pas trop. Ce que je remarque surtout, pour tenir le coup, en fait, au niveau de mon service, même d'autres, c'est la baisse du temps de travail, surtout les gens, pour avoir plus de repos. Les personnes prennent des congés sans solde aussi pour pouvoir souffler. Donc, c'est plutôt ces stratégies individuelles-là, plutôt que d'aller travailler dans le privé, ce que je remarque.
Si on regarde de manière très pragmatique, d'aller dans le privé, est-ce qu'on aurait des avantages sur les salaires, par exemple, ou sur le temps de travail, le taux d'occupation?
Je ne connais pas assez bien la situation dans les cliniques pour répondre. Mais...
Alors, moi, peut-être, je peux apporter un éclairage. Je ne connais pas toutes les situations dans toutes les cliniques privées, mais si on se réfère, par exemple, au conflit qu'il y a eu à Neuchâtel autour de l'hôpital de la Providence, ce qui apparaît clairement, c'est qu'un hôpital qui est privatisé, ça veut dire on remet en question tous les engagements des personnes qui travaillaient avant avec un statut de fonctionnaire, avec un statut de fonction publique, pour leur proposer des contrats de droit privé dans un environnement privé, donc avec des moins bonnes conditions au niveau social, au niveau salarial, etc. Donc une infirmière qui travaille dans le privé a clairement des moins bonnes conditions qu'une infirmière qui travaille dans le public, ce qui explique évidemment le fait que les cliniques privées peuvent se targuer d'avoir des coûts qui sont moindres.
Et tout ça reste en l'avantage justement des hôpitaux publics, puisque le personnel reste un petit peu lié avec des meilleures conditions.
C'est cela.
Fabio ?
Julie, tu parlais du mouvement du personnel tout à l'heure. Ce mouvement un peu incessant, il est aussi peut-être nature à créer des situations précaires dans les équipes. Non, on sait que la notion d'équipe soignante, c'est quelque chose de très fort dans l'hôpital. Mmh. Alors, est-ce que ces mouvements font que ça affaiblit un peu ce tissu très, très, très fort dans cette profession?
C'est sûr qu'on a besoin de travailler en équipe déjà pour se soutenir, mais en plus quand on se connaît, quand on connaît la réaction de nos collègues, ça crée une dynamique de travail qui est beaucoup plus sécuritaire pour les patients, et puis on sait comment fonctionne l'un l'autre. Après, ta question était, est-ce que ça affaiblit les équipes, c'est ça?
Est-ce que c'est une continuelle reconstruction des équipes?
Oui, c'est sûr qu'il y a un turnover assez important, et donc c'est vrai qu'il y a toujours des nouveaux collègues à intégrer, et ça prend toujours du temps, donc on ne peut pas compter sur les nouveaux collègues, même s'il faut beaucoup, de la même façon qu'on compte sur quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Donc c'est sûr que ça demande à chaque fois de recréer des collectifs et d'apprendre à travailler ensemble.
Est-ce que cette problématique est vraiment liée uniquement au service de soins aux personnes, ou est-ce que c'est également le même problème pour les médecins, pour les assistants, etc., etc.?
La pénibilité du travail, j'imagine, est aussi très forte pour eux. Après, eux, c'est aussi à l'hôpital où ils se forment, c'est-à-dire c'est aussi un endroit où ils font leur formation, et donc ils y restent quand même quelques années. Après, j'ai du mal à répondre sur...
À long terme, c'est plus difficile. Fabio.
Julie, elle en est où la mobilisation aujourd'hui des actions? Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues?
Oui, alors suite en fait au mouvement qui avait lieu en novembre l'année dernière, on souhaite renouveler en fait cette année prolonger un peu ce mouvement par une journée de rencontre des soignants, un forum hospitalier en fait qu'on voudrait faire le 11 novembre sur Lausanne, qui permettrait en fait de pouvoir d'abord créer du lien entre les soignants, parce que ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a un grand isolement par rapport à cette dégradation des conditions de travail. Il y a l'impression qu'on est un peu seul à vivre ça, alors que c'est pas du tout le cas. Donc l'idée serait déjà de créer du lien entre les personnes soignantes, de faire le lien en fait entre ces décisions politiques et puis la réalité de nos conditions de travail, et enfin d'arriver à des revendications et de voir comment on pourrait les porter. Donc on souhaiterait, dans le cadre de la journée du 11 novembre au Casar à Lausanne, pouvoir aborder ces thématiques.
C'est une journée qui est ouverte à tout le monde ?
Oui, elle est ouverte à tout le monde.
D'accord.
Donc, on rappelle, le 11 novembre, au Casar, à Lausanne, à partir de quelle heure ?
C'est de 11h à 15h.
De 11h à 15h, pour toutes les personnes qui peuvent être intéressées à discuter de ces questions de conditions de travail et de revendications pour améliorer les choses pour les soignantes et les soignants dans les hôpitaux publics. Pour conclure, je vous propose d'écouter les propos du docteur Bertrand Kiefer, qui est membre actif de la Commission nationale d'éthique et rédacteur en chef de la Revue médicale suisse, qui nous livre sa réflexion sur le rôle central des acteurs de la santé, toujours tiré du temps présent qu'on a entendu déjà tout
à l'heure. Oui, le temps présent qui est tiré de la RTS, diffusée le 3 septembre
2015.
On écoute Bertrand Kiefer.
On voit actuellement une souffrance dans le personnel soignant qui n'était pas là il y a quelques années, voire quelques décennies, et que cette souffrance participe à une dégradation quand même du travail fourni. On voit les hôpitaux qui s'organisent de plus en plus comme des entreprises, voire comme des usines qui produisent du soin, et que la qualité, elle est quand même évaluée au sens habituel de l'usinage d'un produit. Et donc, il y a une certaine déshumanisation qui est en train de s'organiser dans les hôpitaux et qui n'apparaît pas vraiment dans les critères de qualité. La santé, c'est d'abord la chose la plus précieuse que nous ayons, mais c'est en même temps l'endroit où on définit l'humain dans notre société. Ailleurs, l'humain, il est défini selon ses performances, ses capacités économiques. Dans le système de santé, on a un regard particulier, et ça, on doit le surveiller comme le lait sur le feu, nous, société, nous, culture, développée. Dans toute l'histoire de l'humanité, ça a été un énorme enjeu de ne pas abandonner ces gens, même à l'époque où la médecine était inefficace. On ne laissait pas sur le chemin les gens qui étaient malades. La médecine, c'est un des derniers endroits où on a une attitude comme ça, où ça ne fonctionne pas juste comme une entreprise.
Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage humain et concret que vous nous avez apporté ce soir de votre vie en milieu hospitalier. Bon retour chez vous et bonne soirée.
Merci.
À très bientôt. Et puis, on vous rappelle ces extraits de Temps présent que nous vous avons fait découvrir ce soir, Temps présent de la RTS. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Il est encore disponible en replay. C'était le 3 septembre 2015 sous le titre « Hôpital, silence, on ferme ». Avant de se retrouver pour les traditionnelles brèves syndicales, voici un petit peu de musique pour vous sur Radio Django et Radio La Fabrique.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Passé de 19 minutes sur Radio Django et Radio La Fabrique. Voici le moment venu des brèves syndicales.
CFF, des économies encore et encore.
Le programme d'assainissement RAIFIT 2030 ne semble pas suffisant. Les CFF annoncent un programme d'économies supplémentaires à CFF Cargo dont les chiffres rouges du premier semestre viennent d'être publiés, tandis que les autres divisions arborent plutôt le sourire. Le SEV rappelle que les économies ne peuvent se faire sur le dos du personnel et de la sécurité du système ferroviaire, ni sur la qualité du service public.
Transport public lausannois, nouvelle CCT plébiscitée.
En 2015, le personnel des transports publics lausannois avait balayé à 85,4% le projet de convention collective de travail. La mobilisation d'alors a permis de partir sur de meilleures bases et d'arriver cette année à un texte satisfaisant, avec notamment un système salarial clair et transparent, une semaine de vacances supplémentaires. Et la discrimination du congé maternité dans la progression salariale sera abolie. Ce nouveau projet a été accepté à 74,9% par le personnel consulté il y a quelques jours. La convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2018 pour une période de 5 ans.
Mise au concours des lignes de bus jurassiennes, non au dumping.
Les syndicats Syndicom et SEV ont lancé il y a une semaine une pétition pour défendre les transports publics jurassiens contre la sous-enchère que pourrait entraîner la mise au concours des lignes l'an prochain. Selon les syndicats, il est primordial d'inclure dans l'appel d'offres des éléments protégeant les conditions de travail des conducteurs et conductrices de bus. Une motion au Parlement appuie les requêtes syndicales.
Les maçons se mobilisent.
Jour de paye. Sous ce mot d'ordre, les maçons de Suisse se mobilisent et exigent une hausse de salaire de 150 francs par mois. Le samedi 21 octobre prochain, ils manifesteront à Lausanne pour la Suisse romande et à Olten pour la Suisse alémanique et le Tessin. Les travailleurs de la construction en ont assez de voir leur pouvoir d'achat s'éroder, alors que sur les chantiers, c'est toujours plus de travail, plus de pression, dans des conditions pénibles et difficiles. En 5 ans, leur salaire a augmenté de moins de 1% et rien depuis 3 ans, alors que les primes maladie explosent et que les logements restent chers. Face au patronat qui refuse toute hausse, UNIA appelle tous les maçons romands à renforcer les rangs de la manifestation pour les 150 francs à Lausanne. Rendez-vous le 21 octobre à 14h sur la place Saint-François.
À Payerne, UNIA récupère plus de 100 000 francs d'arriérés de salaire.
Blocage de chantier fructueux pour UNIA Vaud à Payerne. L'entreprise Nebija Alberto, active dans la construction d'un petit immeuble d'appartements de luxe, n'avait pas réglé les salaires de certains ouvriers ni versé les nombreuses heures supplémentaires depuis 2016. Les 6 employés concernés réclamaient depuis des mois ces impayés qui s'élèvent à plus de 112 000 francs. Mandatés par les travailleurs et après avoir mis en demeure l'employeur sans succès, des secrétaires syndicaux d'UNIA sont intervenus à l'aube du 19 septembre, bloquant tous les accès du chantier. Une action payante puisque le jour même, le patron signait une convention pour le paiement en 3 fois des arriérés entre le 22 septembre et le 13 octobre. Le premier versement a déjà été effectué. UNIA attend aussi la preuve que les cotisations sociales ont bel et bien été payées.
C'était les échos du monde syndical que nous retrouverons le mardi 7 septembre. Merci beaucoup à Valérie et à Fabio pour la préparation de ce sujet, un sujet que vous pouvez retrouver sur notre site en podcast www.django.fm. Mais oui, ce sera le 7 novembre. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Fabio, qu'est-ce que j'ai dit ? Dites-moi.
Septembre.
Ah oui, c'est passé ça, effectivement. Ce sera le 7 novembre.
C'est passé.
Merci Fabio pour ce petit détail. Un sujet à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. Un peu de musique avec Marvin Gaye.
Of us.
Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir dans La Rose des Vents, rencontre avec un homme de l'ombre qui rêvait de donner la parole aux laissés pour compte et aux oubliés de la société. Il crée dans cette perspective en 2017 La Voix des Sans-Voix, un journal plutôt engagé et qui parfois accuse. C'est donc un journal militant, hein, Daniel ?
Oui, plutôt. Oui. Disons que les sujets couverts, bonsoir Monsieur Souma, restent ciblés.
Bonsoir Daniel.
Ils concernent une population souvent fragilisée par la vie et marginalisée. Ce journal reste l'occasion pour des personnes peu entendues dans les médias mainstream de s'exprimer sur des problématiques sociales et humaines qui nous concernent finalement tous, de loin ou de près. En tant que citoyen d'une cité et en payant des impôts, susceptible d'améliorer les services de la cité et certains dispositifs en faveur d'une meilleure cohésion sociale.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Charles Souma. Bonsoir Charles.
Bonsoir monsieur.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, grâce à Dieu. Merci.
Merci. Vous êtes avocat, mais très très bien. Merci beaucoup. Vous êtes avocat de formation. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, comme on l'a dit.
Oui, oui.
Voilà. Vous êtes d'origine de Guinée-Conakry.
De la Guinée-Conakry.
Voilà, oui. Vous êtes à l'origine de ce journal, on l'a dit, la Voix des Sans-Voix, dont le premier numéro a vu le jour en février 2017. Installé en Suisse depuis quelques années, qu'est-ce qui vous a conduit à créer ce journal, Charles Souma ?
Qu'est-ce qui m'a conduit d'abord mon parcours. Mon parcours, voilà, j'étais avocat en Guinée-Conakry, défendant la cause vraiment de l'opposition, des oubliés. Mm-hmm. Et puis, bon, voilà, je suis de gauche, vraiment, je suis quelqu'un vraiment qui n'aime pas trop l'injustice. Et j'ai quitté en Guinée pour des problèmes politiques et je suis rentré en Suisse. Et voilà, c'est ce côté combattant contre l'injustice qui m'a poussé à créer ce journal.
Charles, qui sont les sans-voix en Guinée-Conakry ?
Les sans-voix, c'est à presque 80% de la population africaine, c'est pas seulement en Guinée. Hein ?
C'est en raison de la liberté d'expression qui est...
D'expression, oui, d'expression, oui.
Et en Suisse, qu'est-ce que vous considérez comme les sans-voix ?
Et en Suisse, je considère les sans-voix d'abord, bon, je ne suis pas un journal communautaire, d'abord les étrangers.
D'accord, mais il n'y a pas que les étrangers qui sont dans les sans-voix.
Oui, j'arrive, je n'ai pas encore fini, terminé, excusez-moi de couper la parole. Et après, une partie de la couche indigène, les Suisses.
Les locaux, donc.
Les locaux, oui.
Et quel est le profil des sans-voix en Suisse ? Qui sont-ils réellement ?
Ouais.
Est-ce que ce sont plutôt des femmes ou des personnes âgées ?
Il y a des femmes et des hommes. Il y a des femmes et des hommes. Mais vous savez, le Suisse, il a une particularité d'être très modeste, d'être en retrait. Même s'il est vraiment dans des problèmes financiers difficiles, il n'aime pas trop se montrer.
Et est-ce que vous avez le sentiment que ce sont aussi des personnes d'origine étrangère qui pourraient peser dans la balance ?
Eh oui, quand même, oui. Parce que vous savez, quand on n'est pas chez soi, on rencontre beaucoup de difficultés, plus que les locaux.
Charles, pour quelles raisons est-ce que cette population que l'on appelle les sans-voix ou les laissés pour compte vous touche autant ?
D'abord, humainement. Et secondo, la minorité. Vous savez, quand on est minorité dans un pays ou dans un continent, on est plus touché par la pauvreté, la misère que d'autres couches vraiment de la population.
Enfant, vous refusiez l'injustice et cela vous a conduit à faire des études de droit.
Oui.
Avocat de formation, donc vous vous êtes rangé du côté des plus faibles. Mais est-ce qu'arrivé en Suisse, vous avez fait partie des sans-voix ?
Oui, arrivé en Suisse. D'abord, j'étais requérant d'asile. Et puis, je travaillais dans une ferme où je gagnais 200 francs par mois. Et j'ai rencontré aussi le racisme ici en Suisse. Hein. Alors voilà, j'ai rencontré aussi des difficultés avec la police qui me contrôlait comme ça parce que j'étais noir. Voilà, oui, mais je n'ai pas de voix.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que vous n'avez pas de liberté d'expression en Suisse ?
Non. On est quand même dans un pays démocratique où la liberté d'expression est très, très vive. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette liberté aussi parce qu'il y a des voix qui ne sont pas écoutées.
Et est-ce que vous pensez qu'on s'approprie nos droits par rapport à la liberté d'expression ?
Oui, pas seulement en Suisse, mais en Europe aussi. Oui, je remarque que vraiment, il y a certaines personnes, hommes ou femmes, qu'on étouffe leur voix.
Pour revenir à votre journal, par quel biais rencontrez-vous en fait les personnes que vous interviewez? Le réseau?
On m'appelle.
On vous appelle.
D'abord les abonnés, puis on m'appelle. Par exemple, il y a un Valaisien qui a lu mon journal, il m'a appelé, il était en conflit avec la commune du Valais, la commune de Monté. Et il a eu la malchance de perdre ses parents, ses grands-parents étaient très, très riches. Alors voilà, donc la commune de Monté, par le biais d'une curatelle, ils l'ont dépossédé de ses biens. Et puis bon, voilà, de 2 millions et quelques francs, il m'a appelé pour essayer d'élever sa voix dans le journal.
Mais comment est-ce que vous avez fait connaître votre journal? Parce que pour le moment, il n'y a eu qu'une première édition qui est sortie en février 2017. Oui. Est-ce que vous avez des interlocuteurs dans certains milieux? Est-ce que c'est plutôt vos amis, les amis de vos amis?
Non, ce n'est pas les amis. J'ai des interlocuteurs, j'ai certaines associations, j'ai l'église de Lausanne. Hein. Et puis voilà, bon, pour le moment, je suis le créateur. C'est moi, je l'ai créé avec mes propres fonds. Mais vraiment, je cherche encore vraiment des gens qui peuvent me soutenir pour sortir beaucoup d'exemplaires.
Tout à fait. Et que vous racontent les gens que vous rencontrez? Vous avez parlé tout à l'heure donc, de ce problème de logement de ce monsieur de Monté. Mais comment est-ce que vous allez chercher les gens? Parce que finalement, ils se dévoilent. Vous rentrez dans une forme d'intimité qui n'est pas toujours facile à exprimer.
Bouche à l'oreille. Vous savez, la voix des sans voix, déjà, ça sonne à l'oreille. C'est une résonance qui fait tic.
D'accord.
Alors voilà, oui.
Ça donne donc, envie de s'ouvrir.
Absolument. Quand les gens entendent, ils se disent, ah, donc les journaux normaux, les journaux de voilà, c'est des journaux qui sont téléguidés par les autorités communales ou cantonales. Alors ces journaux, la voix des sans voix, voilà un journal maintenant qui peut vraiment porter ma voix. Il m'appelle tout de suite.
Et dans quelle mesure est-ce que votre journal répond à un besoin?
C'est-à-dire, moi, je suis comme monsieur vient de le dire, je suis un journal très critique. Hein, critique. Alors voilà, moi, je fais une interview avec la personne, et je me mets dans la peau de la personne en tant que rédacteur.
Mais parce que vous avez vécu...
D'abord. Pardon. Oui, j'ai vécu. Oui,
parce
j'ai
que vécu. Vous avez vécu des situations similaires.
Similaires, absolument.
Mais au fond, qui est-ce que vous souhaitez interpeller?
Les autorités.
D'accord.
Toutes les femmes et hommes qui ont le pouvoir.
Effectivement, dans le premier numéro, vous vous êtes également adressé à des acteurs institutionnels.
Absolument.
Et vous leur avez demandé dans certains articles de prendre position sur des sujets délicats, comme les pratiques policières parfois disproportionnées ou extrêmes, ou des questions de société comme l'intégration. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette démarche? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ces acteurs peuvent rester dans le politiquement correct?
Oui, mais vous savez, quand on... la chance roule, je le suis, hein, tant qu'on est les bras croisés, on ne dénonce pas, bon voilà. Les autorités, des fois, ils n'ont pas peur, mais des fois, ils craignent les médias. Alors, un média comme la presse écrite, comme un journal, ça porte la voix. Surtout un faible qui parle, qui dénonce, ça peut vraiment... Voilà, surtout, j'ai aidé deux Suisses, ça fait pas récent, tout récemment, d'avoir un appartement subventionné grâce à mon journal.
Mais est-ce que vous croyez qu'en fait, ils s'octroient le droit justement de dire le fond de leur pensée ou ils sont obligés en fait d'avoir un certain niveau d'expression qui justement correspondent en fait à des intérêts politiques avant tout?
Non. Par exemple, le gars de Monté, il avait contacté beaucoup d'avocats, beaucoup de journaux locaux le matin 24 heures, mais voilà, sa demande est restée vraiment dans les tiroirs. Alors, quand il s'est adressé à moi, voilà, et moi, j'ai mis son article à la première page de mon journal. Et puis voilà, il y a les autorités du Valais qui m'ont appelé, qui demandent vraiment des renseignements.
Charles Souma, vous n'avez pas l'impression peut-être de faire un petit peu, de récupérer les sujets que les autres n'ont pas voulu prendre?
Oui, voilà, ça c'est une bonne question. Oui, les laisser peu compte, c'est ça.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que les médias en général font l'impasse sur certains sujets, voire certains publics?
Ils font l'impasse, absolument, ils font l'impasse.
Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils font cette impasse? Par manque d'intérêt ou parce qu'il y a des choses qu'on n'a justement pas envie de dénoncer?
Non seulement par manque d'intérêt, et deuxièmement aussi, bon, ben, vous voyez quand, excusez-moi, je n'ai pas dit que tout le monde est raciste. Par exemple, le cas de B, le jeune Africain, voilà, c'est un Africain, c'est un Noir, et bon, on a tiré dessus une balle dans sa tête, il est mort.
Attendez, M. Souma, voilà. Vous parlez de ce jeune qui est décédé à B l'année passée, hein?
Oui, voilà.
Et dans ce cadre-là, vous avez rencontré le chef de la police.
Oui, absolument.
Qui vous a expliqué qu'il ne pouvait pas porter la responsabilité pour tous les policiers, en fait, du canton.
absolument. Et pourtant, le policier n'avait pas le droit de tirer sur lui à bout portant. Mais bon, voilà, comme c'est une minorité, c'est un Africain, bon, voilà, ça coûte pas très cher. Bon, voilà, il a flingué.
Mais dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ces articles, qui seront peut-être lus ou pas lus par les politiciens, pourraient changer un petit peu la dynamique de notre société en les sensibilisant à des problèmes autour du logement, de la précarité, du racisme? C'est le but, mais est-ce que vous pensez arriver à atteindre cet objectif?
Oui, je pense arriver. Parce que surtout le contrôle de faciès, le conseil municipal, il n'était pas au courant de ça. Alors il m'a demandé si c'est vrai, de l'apporter des preuves et puis il va prendre sa disposition.
Oui, c'est un travail de longue haleine. Ouais, Charles, le vivre ensemble est au cœur de votre démarche. En quoi donner la parole, dénoncer des situations uniques pourrait participer à cette construction?
Oui.
Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que vos actions, vos activités, le fait de libérer la parole serait utile à la société dans laquelle on évolue?
Donner l'espoir, ça fait vivre, hein, l'espoir. Oui, hein, le peuple sud-africain s'est battu pendant des siècles et aujourd'hui ils sont libres grâce vraiment à l'espoir. Hein, on ne se bat pas pour rien, on se bat pour quelque chose, une cause juste.
Est-ce que vous avez le sentiment que les 100 voix ici, en fait, pourraient être, est-ce qu'on pourrait avoir une émergence d'un mouvement collectif qui toucherait les 100 voix en Suisse, parce qu'on a plutôt l'impression que les gens dorment un peu?
Oui, il y a des associations. Heureusement, il y a de bonnes âmes ici en Suisse. Il y a des associations, surtout, qui aident vraiment les requérants d'asile, qui dénoncent les pratiques policières, qui dénoncent vraiment le manque vraiment de courage des autorités. Oui, j'ai eu quand même. Il y a beaucoup de pratiques vraiment qui sont vraiment intéressantes qu'on met en œuvre. Oui, j'ai beaucoup d'espoir, oui. Mais bon, c'est difficile, hein, c'est difficile. On va l'espoir.
Charles Souma, votre prochain numéro est prévu pour la mi-octobre, dans une quinzaine de jours. Qu'est-ce qui nous réserve ce numéro en quelques secondes?
Ah, ça, oui, une surprise.
Ah non, vous savez, mais dites-nous quelque chose quand même. Allez, la première.
Oui. La première, c'est... Je salue l'initiative vraiment de Genève qui a pris cette bonne idée de régulariser vraiment les sans-papiers à Genève.
Voilà, on n'en saura donc pas plus, mais c'est une bonne mise en bouche. Sortie, vous confirmez, mi-octobre?
Oui.
Eh bien, c'est parfait, voilà qui est transmis. Merci beaucoup, Charles Souma.
Merci beaucoup à vous. Hein.
Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir.
Je vais réserver de nouveau pour vous bientôt, puis on va se revoir.
Eh bien oui, on l'espère bien, en tout cas, se réentendre par la radio. Merci beaucoup, Charles Souma, de nous avoir fait découvrir la voix des sans-voix, un journal qui entend donner la parole, on l'a dit, à des citoyens qui, pour diverses raisons, n'ont pas le droit à la parole ou du moins ne savent pas comment se faire entendre et sont parfois victimes d'un système. Daniel, pour conclure, la voix des sans-voix, un journal nécessaire pour mieux vivre ensemble, si on a bien compris?
Alors, plutôt oui. Pour reprendre les mots de l'éditorial de Charles Souma du premier numéro, puisque forcément, nous partageons cette petite planète Terre, nous devons apprendre à vivre en harmonie et en paix, les uns envers les autres et avec la nature. Ceci n'est pas un rêve, mais une nécessité.
Voilà, pour ceux qui désirent découvrir le prochain numéro et s'abonner à ce journal, vous pouvez suivre Charles Souma sur son site directement. On vous met tous les liens sur notre site www.django.fm. Merci beaucoup, Daniel, pour ce sujet.
Une question, s'il vous plaît.
Voici cette chanson, un requiem pour les oiseaux. Bird's Requiem, c'est signé Youssef Daffer.
Radio Django, culture.
Eh bien oui, 18h42, c'est la culture. Bonsoir Jean-Luc. Oh pardon, avec le micro ouvert, ce serait
ouais,
pour mieux.
Ouais, mieux.
Plus facile, ça passe mieux à la radio en tout cas. Nous allons parler ensemble, entre autres, d'une rencontre entre un écrivain, un comédien, un chanteur, il s'appelle Roger Cuneo, un espace de création, c'est une rencontre aussi avec cet espace, une petite salle de théâtre, le Vide-Poche pour ne pas la citer, qui est située à la place de la Palue 10 à Lausanne.
Oui, ce magnifique petit théâtre, hein, le Vide-Poche, qui est né entre 1972 et 1974, hein, géré par Pôle Sud, a toujours été un lieu qui a favorisé la création, réuni des passionnés de théâtre, de chansons, des arts vivants en général.
Bonsoir Roger Cuneo.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous montez sur les planches à cette époque et vous faites vibrer la salle de chansons. Une symbiose entre ce lieu accueillant à l'échelle humaine qui interprète qui donne une zone d'interprétation et une proximité avec le public. Tout cela 40 ans après la rencontre que vous avez faite et les découvertes que vous avez faites avec Raymond Devos, c'est bien cela?
Ce soir, ce sera Raymond Devos, il y a 40 ans.
Oui, 40 ans.
C'était mes chansons que je proposais. Mais ce soir, ça va être Raymond Devos. J'ai effectivement commencé ma carrière, si je puis dire, au Vide-Poche, parce que c'était l'endroit où on pouvait commencer, se lancer. Roland, je me souviens, qui était l'animateur, était vraiment ouvert à ce type d'entreprise et la salle se prête vraiment très bien. C'est une petite salle. On a l'occasion de se parler entre soi. Le public étant proche et peu nombreux, ce qui n'est pas mal du tout, je trouve, contrairement aux arénas et autres festivals où on parle pas, on revient par milliers de personnes. Là, on est une cinquantaine et c'est parfait. Donc oui, j'ai fait mes premières au Vide-Poche et je proposerai à Greg de continuer le pourquoi je suis là aujourd'hui et cette semaine encore au Vide-Poche.
Oui, oui, alors peut-être que Greg, avant de quand même nous redonner les particularités de l'espace du Vide-Poche, il y a 2 ans, il y avait un petit ouvrage, hein, qui était rédigé et qui raconte bien l'histoire. Alors, en 2 mots, les particularités.
Oui, c'est vrai, parce que vu que ce théâtre n'est pas un théâtre au sens classique qui s'entend, dans le sens que ce n'est pas une institution subventionnée par les services de la culture, c'est un lieu dépendant du centre socioculturel, donc de Pôle Sud aujourd'hui, mais qui est le lieu de naissance.
Dont tu es responsable depuis 2010, Greg Narbel, parce qu'on ne l'a pas dit, hein, tu es animateur socioculturel et responsable de ce lieu.
Oui, j'ai justement succédé à Roland, dont Roger vient de parler, quand il est parti à la retraite. Donc le théâtre du Vide-Poche n'a connu que 2 animateurs responsables. Donc il y a 2 ans, on a fait un petit ouvrage qui s'appelle « Regard sur le Vide-Poche », c'est « Regard au pluriel », parce qu'on a essayé de demander à un certain nombre de personnes qui ont vécu ou qui vivent encore le Vide-Poche de s'exprimer sur ce lieu et ses particularités.
Oui, Roger Cuneo a commencé à chanter. Est-ce que c'est toujours un tremplin pour des jeunes acteurs et pour des jeunes troupes, le Vide-Poche actuellement?
On l'espère, dans le sens que vu que c'est un lieu qui justement n'a pas besoin de remplir des centaines ou des milliers de personnes, permet à des jeunes troupes, à des jeunes artistes de se lancer dans des conditions où ils n'ont pas un énorme risque financier. Il se trouve que, en tout cas, moi, depuis que je suis là, j'ai eu l'occasion d'accueillir des jeunes comédiens, comédiennes qui font des créations alors qu'ils ont 17 ou 18 ans, et que je retrouve maintenant, là, 5 ans plus tard, ils organisent une tournée romande avec leur nouvelle création, et elles vont aussi passer par le Vide-Poche parce qu'elles y ont encore des attaches. Mm-hmm.
Roger Cuneo, vous avez participé à cette aventure. Vous dites sur votre site que le théâtre du Vide-Poche symbolise beaucoup de choses pour vous, et ça a marqué vos premiers pas artistiques. Qu'est-ce que ce lieu a donc représenté?
À mes débuts, ce que je vous ai dit. Mes débuts et puis je dirais aussi mon départ, parce que le dernier spectacle que j'ai fait au Vide-Poche, c'était un spectacle Baudelaire en jeu, il s'appelait. Et pour la première fois, on a joué, je ne sais pas, plus d'un mois, tous les soirs, et je pouvais tourner le carton complet. c'était vraiment le premier endroit et la première fois où on avait plus de demandes que de public. Et à partir de là, c'est pas moi je suis parti à Genève, donc mes contacts avec le Huit-Poche se sont un peu perdus, mais je suis content d'être de nouveau de retour ce soir.
Oui, parce que entre 70 et 80, vous adonnez surtout à la chanson, et par la suite, c'est plutôt la comédie. Acteur.
Aussi, après avoir chanté, je ne sais pas, une dizaine d'années, et après avoir travaillé avec des musiciens que j'ai vus partir, et que c'était un peu difficile pour moi de tout recommencer à zéro avec d'autres, et effectivement, j'ai arrêté la chanson et je me suis davantage consacré au théâtre.
Et aussi voilà, à la formation. Hein.
Aussi, parce que j'ai enseigné le théâtre à Genève, oui.
Et puis Jean-Luc, il y a également tout le côté musical hein, qui intéresse Roger Cunéo.
Oui, alors en écoutant une émission à la RTL, j'ai entendu que vous aviez aimé, enfin vous aimiez toujours hein, Léo Ferré, Jacques Deuil, Georges Brassens. Des modèles pour vous, c'était des modèles qui vous inspiraient.
Entre autres, des papas.
Des papas.
Oui, vraiment.
Mais des gens engagés, un peu comme vous m'avez dit tout à l'heure, engagés dans la politique. Vous étiez engagé dans la politique aussi dans les années 80.
J'étais engagé dans la politique. Et dans la politique, je me suis tourné à la chanson. J'ai utilisé la chanson pour la politique. Je me souviens à Lausanne, pendant les événements de Lausanne Bouge, où on me demandait toujours deux, trois mêmes chansons que je chantais pour le public contestataire.
Voilà. Et Roger Cunéo, vous êtes venu ce soir avec une chanson de Léo Ferré, Elsa. Pourquoi cette chanson ?
Ah, c'est pas moi qui l'ai.
C'est moi qui l'ai choisi.
C'est Jean-Luc qui l'a choisi, mais elle vous est chère quand même.
J'aime Ferré de celle-là et d'autres. Je veux dire, Ferré et Aragon, c'est une belle histoire. Voilà. Et alors, c'est une belle chanson.
Et on écoute quelques extraits de cette chanson Elsa de Léo Ferré qui chante Aragon.
Aragon Elsa. De l'air que te fait rattachant, tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim. Et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. C'est miracle que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue. Toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré, toi dont les bras ont su barrer sa route atroce à ma démence, et qui m'a montré la contrée quand la bonté seule en semence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un jeune lièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit donc que tu paraisses, de l'air que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse.
Voilà, sur les notes de ce beau poème. Mais en fait, ce retour au vide-poche, pourquoi le choix du vide-poche, un clin d'œil, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est toi qui vas raconter.
Oui, je crois que c'est, il vaut mieux que ce soit moi qui raconte.
Le clin d'œil, il est de ton côté. Le clin d'œil, il est plus
de ton côté. Mon côté, oui. Parce que c'est à l'occasion d'une rencontre totalement fortuite qui n'avait rien à voir avec le théâtre que j'ai rencontré Roger. Mais je savais qui il était et qu'il était passé au vide-poche, mais seulement Roland n'ayant pas laissé beaucoup de traces de ce qu'il y avait fait, c'était juste un nom dans une liste de personnes qui sont passées au vide-poche pour moi. Et de le rencontrer en vrai, je me suis dit, bon, déjà, il existe. Et puis, la deuxième chose, à cette occasion-là, il m'a expliqué avoir un projet de spectacle en reprenant les textes de Raymond Devos. Et les seuls en scène sont vraiment des spectacles qui vont très, très bien sur la scène du vide-poche. Donc, du coup, je lui ai proposé un peu comme ça, très légèrement, lui disant, mais est-ce que ça ne t'intéresserait pas de revenir au vide-poche? Il a dit oui.
Oui, alors quelques mots sur ce projet, parce que je crois que vous travaillez à ce projet depuis très longtemps. Enfin, c'était une envie quand même de s'attaquer un peu à... Enfin, pas s'attaquer un peu, de commencer vraiment à travailler sur ces textes.
Raymond Devos, oui, c'est quelqu'un que j'aime particulièrement, qui m'a toujours titillé de son vivant. J'imaginais même pas qu'on pouvait jouer alors qu'il était là. Maintenant, ça fait plus de 12 ans qu'il est décédé. Et j'ai eu un peu peur de m'attaquer, parce que pour moi, c'est un monstre du spectacle, de l'humour. Et j'ai eu peur de m'attaquer à lui. Et puis je me suis dit, mais je ne vais pas être Raymond Devos, je vais être moi, jouant les textes de Raymond Devos, ce que je fais. Et puis quand Greg m'a dit, tu ne voudrais pas venir au vide-poche, eh bien, tout à coup, il est remonté tout ce passé de mes débuts et puis de mon lancement à travers le vide-poche. Je me suis dit, eh bien, pourquoi pas? Au contraire, j'ai plaisir à revenir à Lausanne. Je ne sais pas si je connais encore beaucoup de monde, si les gens viendront, on verra. Mais en tout cas, moi, je suis content d'être là.
Oui, mais il y aura du public. Mais c'est les mots, c'est la verve, ça, c'est Devos que vous adorez, mais cette volubilité, puis en même temps, cette profondeur. Et
cet humour totalement particulier, et puis surtout ce que j'aime, c'est un poète, je trouve, en tant qu'humoriste, poète, humoriste, mais surtout, il nous prend pour des gens intelligents. Pendant le spectacle, c'est nous qui devons aussi comprendre, parce que ça va vite et bien.
Si sculpter les mots.
Oui, oui, c'est l'humour, c'est l'absurde, mais il nous fait travailler et il nous prend pour des gens intelligents, quoi.
Ce spectacle-là, donc, il sera joué ce soir au vide-poche, enfin, à partir de ce soir à 20h30, et par la suite, vous proposez de le jouer comme spectacle à domicile. Comment ça se déroule, cette formule à domicile?
Alors écoutez, mis à part le vide-poche, je n'avais plus pensé aller dans des théâtres. Hein, c'est vraiment nouveau, cette idée. Moi, quand j'ai prévu Raymond Devos, j'en avais même assez d'aller dans des théâtres, de louer des salles, parce que maintenant, on est un peu obligé de tout faire. Il y a encore 20-30 ans, c'est le théâtre qui nous engageait. On était engagé pour le spectacle et le théâtre s'occupait de tout. Aujourd'hui, on doit louer la salle et en principe, c'est à nous à nous organiser pour qu'il y ait du monde, la publicité, etc., les éclairages. Moi, j'en avais assez. Et je me suis dit, avec le spectacle de Vos, c'est vraiment aller aux gens plutôt que les gens viennent à moi. C'est moi qui vais chez des gens. Alors, j'ai proposé la formule. Je dis à des gens, ben voilà, si quelqu'un de vous organise un spectacle, invite quelques personnes, 10, 5, 20, à son gré. Ce que je lui propose, c'est de proposer à ses invités un repas dit canadien, c'est-à-dire chacun amène quelque chose. Et moi, avant de manger ensemble, je fais mon spectacle. Ensuite, on mange ensemble ce qui est là. Et ensuite, je mets un chapeau. Et les gens mettent ce qu'ils veulent dans le chapeau. Et je trouve que c'est très bien. Chacun participe. Et moi, ça me convient parfaitement.
Et cette formule fonctionne bien?
Écoutez, oui, j'ai déjà plusieurs engagements. J'en ai déjà fait pas mal. Et j'en ai encore pas mal à faire. Donc, oui, ça fonctionne bien parce que c'est sympathique. On est entre nous. On se voit après le spectacle. On discute encore, que ce soit de Devos, d'autres choses, de chanteurs. Et c'est vraiment magnifique. On rencontre enfin les gens. Habituellement, souvent, quand un spectacle est terminé, le rideau se ferme, on rouvre, il n'y a plus personne. On est là tout seul, ou à deux amis, mais qu'on voit déjà en dehors de ça qui nous attendent. Mais on a perdu les gens. Et là, on est ensemble.
Mais au vide-poche, on les retrouve toujours, parce que le théâtre est tellement...
Ah oui, au vide-poche. C'est pour ça que le vide-poche, c'est comme un peu chez soi.
Et tout le monde peut vous appeler pour organiser cette prestation privée ?
Ah ben bien sûr. Bien sûr, si, même avec plaisir. Moi, je vais. Ça peut être tous les jours de la semaine, le midi, le soir, je suis disponible. Ouais.
Greg, oui. Voilà, que je retrouve la bonne question.
Non, mais c'est vrai que c'est peut-être une question un peu classique, mais qu'est-ce que ça te fait, toi, qui est. Voilà, comme ça fait 6 ans que tu es là, de retrouver quelqu'un qui a commencé sa carrière au vide-poche. Un peu d'émotion, quand même.
Ah, complètement, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très, très respectueux de l'histoire des lieux et des gens. Donc, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le clin d'œil, c'est plutôt. Moi qui ai eu l'occasion, en rencontrant Roger, de lui proposer de venir, c'est pas lui qui a démarché pour venir au vide-poche. Et si je lui ai proposé, c'est que je trouvais que ce clin d'œil à l'histoire, 40 ans plus tard, était vraiment très intéressant. Donc moi, je suis très, très enthousiaste et ému, effectivement, de pouvoir accueillir Roger pendant cette semaine.
Et je peux dire encore qu'il a tout fait. Et il m'a vraiment aidé parce que dans la mesure où je ne suis pas lausannois, je n'habite pas sur Lausanne, il a fait en sorte pour que les choses se passent. Et je te remercie d'ailleurs parce que ce n'est pas évident et tu l'as fait. Donc, je te remercie beaucoup.
De rien.
Ouais, donc, votre spectacle, on le rappelle, hein, il commence ce soir à 20h30 au Théâtre du Vide-Poche. Il va se continuer jusqu'au 7 octobre, donc encore quelques jours, toujours au Vide-Poche. Et puis, toutes les informations pratiques, c'est sur le site de Pôle Sud, pôlesud.ch. Et puis, si on va avoir plus de détails sur vous, sur votre œuvre et sur l'intégralité de ce que vous faites, votre site rogercuneo.ch. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Plein succès, comme on dit dans le milieu, merde, c'est ça ? Ou M, on dit ?
Ah, on dit ça aussi, oui.
Alors, on vous le dit.
Merci.
Tout le meilleur pour ce soir.
Merci.
Et merci beaucoup également à Greg Narbel, animateur socioculturel à Pôle Sud et responsable de la programmation de ce vide-poche. Merci beaucoup, Greg.
Merci à toi.
À très bientôt. À vous. Merci à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet.
Merci.
Et une bonne soirée. Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous avons parlé ce soir des hôpitaux dans la pause syndicale du journal La Voix des Sans-Voix avec son rédacteur en chef. Et à l'instant, nous recevions Roger Cuneo qui se produit au Théâtre du Vide-Poche avec ce spectacle À toi Raymond. C'était le programme de ce mardi 3 octobre sur Radio Django et sur Radio La Fabrique. Tous les sujets sont à retrouver en podcast à partir de ce soir au pire demain sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous parlerons des piétons à Lausanne en compagnie de Pierre Corajou. Nous parlerons d'un projet citoyen, Trait d'Asile également, et puis nous découvrirons quelques livres avec la librairie Basta. Programme à suivre sur notre site et sur notre Facebook Radio Django. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau Grand Direct à écouter sur radio.django.fm et sur Radio La Fabrique. Merci à Nico et à la technique et à toute l'équipe qui a œuvré pour réaliser cette émission. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programme respectif, il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.